Deutsche Welle, Économie et développement.
L'évasion fiscale équivaut à un véritable pillage du continent. De 30 à 60 milliards de dollars échappent aux pays africains chaque année, selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Mais des techniques légales mettent aussi à mal les finances des pays, exemple au Burundi. Et puis dans ce magazine, nous nous intéresserons aussi à la culture du café menacée par la hausse mondiale des températures. Bienvenue pour ce nouveau numéro. L'initiative panafricaine Tax Justice Network Africa milite depuis des années contre les exonérations trop avantageuses accordées à des entreprises ou des particuliers par des gouvernements africains. Elle a trouvé un écho au Burundi. Le reportage d'Anteditas Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
La campagne s'appelle « Arrêter l'hémorragie ». Elle veut lutter contre les flux illicites des capitaux, la fraude et l'évasion fiscale. Les activistes pour la justice fiscale décrivent l'injustice du paiement d'impôts et taxes où les petits contribuables s'acquittent de ce devoir quand les grandes entreprises y échappent. Selon Apollinaire Nishilimbere de l'Initiative citoyenne pour l'environnement et le développement durable, ICED, il faut une égalité devant l'impôt.
Nous voulons qu'il y ait une justice dans la collecte et dans la redistribution des recettes. Nous ne sommes pas satisfaits à ce niveau-là parce que le citoyen ordinaire, lui, paie toujours ses impôts, mais il y a toujours les grandes personnalités et les entreprises qui échappent aux impôts, soit par des manœuvres légales, soit par des exonérations offertes par l'État. Et ce sont des milliards de francs qui se perdent comme ça. Mais nous sommes satisfaits du civisme fiscal et de ce que le gouvernement est en train de faire pour éduquer la population à payer les parts d'impôts. Mais nous vous dire aussi que le gouvernement sache où se trouve l'argent pour financer le développement. Il y a des pertes énormes dans les entreprises privées, dans les personnalités exonérées.
Selon le Code des investissements, les bénéficiaires des exonérations sont les investisseurs, les entreprises de construction sous le financement extérieur, les organisations non gouvernementales, les diplomates, des associations sans but lucratif et certaines personnalités selon les prescrits de la loi. Il peut s'agir également des industries étrangères d'extraction minière. Supprimer ou du moins réduire ces exonérations permettrait de dégager des fonds qui profiteraient aux citoyens burundais dans le domaine de la santé et de l'éducation, comme l'explique André Ndereyimana, chargé de la recherche et communication au sein de la CNED du Burundi.
En 2012, on a noté 173 milliards de francs burundis octroyés à titre des exonérations. Ce que ces montants pouvaient réaliser pour lutter contre la pauvreté, mettre en place des infrastructures au profit des populations, par exemple les écoles. Ça peut construire 9600 écoles fondamentales. Avec une même somme d'argent, pour un enseignant qui peut facilement toucher 200 000 francs burundais, il est possible de recruter 72 000 enseignants par an.
Les activistes engagés dans la campagne Arrêter l'hémorragie estiment que selon leurs recherches, l'Afrique perd 60 milliards de dollars chaque année en flux financiers illicites. Également, il s'inspire de certains faits des multinationales et personnalités qui, depuis des décennies, s'enrichissent par les exonérations au détriment des populations locales qui s'enlisent davantage dans la misère. Apollinaire Nishimbele Dolised appelle à une réforme de la politique des affaires.
L'évasion fiscale et commerciale se comptait entre 300 et 520 milliards de dollars entre 1970 et 2008. Les transactions commerciales criminelles se comptaient entre 150 et 280 milliards de dollars en province d'Afrique vers les paradis fiscaux et vers les riches. Les sorties par la corruption des agents publics se comptaient entre 15 et 24 milliards de dollars entre 1970 et 2008. Vous comprenez ce que la que perd en flux financier illicite. Mais en aide, on a reçu dans la même période entre 50 et 80 milliards de dollars. L'Afrique reste un création nette.
Même si les incitations fiscales sont légales, considérées comme un moyen pour les pays d'attirer les entreprises, elles n'en sont pas pour autant morales. Selon André Ndereyimana de la CNED du Burundi, ces entreprises doivent être morales et responsables.
Comment pouvez-vous expliquer qu'une entreprise rapatrie 5 à 6 milliards par an en laissant en même temps un certain pourcentage de la population croupir dans la misère? C'est pour ça que nous disons que globalement le dispositif est mal pensé, qu'il doit être revu, qu'il y a une immoralité qui doit être mise en avant dans les affaires. Nous combattons pour la justice fiscale, les droits humains au sein centre du développement, même le développement des affaires.
Comment fonctionnent ces exonérations? Le gouvernement abandonne certains de ses droits en faveur des particuliers et d'entreprises. En revanche, ils doivent investir et embaucher la population locale, réduisant ainsi le taux de chômage. Le gouvernement se dit attentif à ce que ces dispositions fiscales ne soient pas un moyen de faire fuir les richesses nationales. Ange Danigakunzi est la directrice de la communication à l'Office burundais des recettes.
Au niveau de l'Office burundais des recettes, on ne fait que mettre en application la loi. Si la personne a des dispositions légales, nous ne faisons que lui donner ses exonérations. Dans la loi portant fixation du budget 2018, il y a l'article 23 qui dit que toute personne physique ou morale qui sollicite une exonération dans le cadre du Code des investissements est tenue de constituer une garantie préalable sous forme de caution bancaire à hauteur de 30% du montant total des exonérations. Après des comptes, cette caution lui est remise en fonction de l'utilisation correcte des exonérations qu'il a reçues. Il y a des services qui sont là. Si une fois ces équipes se rendent compte que vous n'avez pas utilisé les exonérations accordées comme il se doit, il y a des pénalités en fonction de la gravité de la faute.
Au Burundi, les militants en faveur de la justice fiscale espèrent que les autorités vont revoir leur politique. Selon la Banque mondiale, près de 65% de la population burundaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Burundi se classe à la 180e place sur 186 pays de l'indice de développement. En Teddy la Guida à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Le café va-t-il disparaître d'ici 2050 ou 2080? Plusieurs études ont alerté sur ce sujet récemment. S'il est difficile de faire des prévisions de manière sûre, le changement climatique aura des incidences et cela pourrait affecter les pays producteurs comme le Kenya, l'Ouganda ou la Côte d'Ivoire. Écoutez les explications de François Barre, professeur émérite de géographie au laboratoire Les Afriques dans le Monde.
Je ne sais pas si on peut parler de menaces, mais on peut sûrement parler d'impact. Du changement climatique, bien sûr, sur les productions agricoles, à cause de la hausse des températures, mais aussi à cause des phénomènes de sécheresse ou d'excès d'humidité auxquels une plante comme le caféier est extrêmement sensible.
Pour des pays producteurs, je pense notamment à l'Éthiopie, est-ce que ça voudrait dire que les producteurs vont devoir changer les champs de place? Enfin, ça veut dire qu'il va falloir déplacer plutôt en hauteur, par exemple? Vous, ce que vous avez vu sur le terrain, est-ce que c'est des choses comme ça qui sont envisageables?
Oui, probablement. Et puis, surtout, à propos du café, il faut parler de la composante café arabica d'une part et café robusta d'autre part, ce qui exige des conditions climatiques tout à fait différentes. Le café robusta, c'est le café du bas, des terres basses, comme en Côte d'Ivoire, et le café arabica, c'est le café des hautes terres, comme par exemple en Éthiopie que vous venez de citer. Or, le changement des températures va forcément faire monter probablement le robusta plus haut dans certains pays et d'autre part peut-être aussi faire monter le caféier arabica jusqu'à des altitudes où il peut rester hors du gel hivernal puisque c'est le gel qui pour le café est l'ennemi, l'un des ennemis les plus dangereux.
Mais pour s'adapter, il faut que les paysans aient les moyens. Ça reste quand même un gros point difficile.
Ah ben c'est toujours un point difficile, bien entendu. Et c'est un point plus difficile pour des changements de culture et des déplacements de culture. Ça pose des problèmes fonciers. Or, vous connaissez l'acuité des problèmes fonciers dans beaucoup de régions de caféiculture qui sont des régions très densément peuplées. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Et pour vous, pour quel pays cela risque d'être le plus compliqué à gérer?
La plupart des pays, en particulier ceux dont la caféiculture est économiquement la plus fragile, pour des raisons liées au marché international, dont vous connaissez l'extrême fragilité. Je pense en particulier à un pays comme le Kenya. C'est-à-dire que le changement climatique peut entraîner des baisses de rendement, dans certains cas, des baisses de rendement, ça va vouloir dire des baisses de revenus pour les agriculteurs, qui vont s'ajouter à éventuellement les aléas des prix sur le marché international. D'autant plus que l'Éthiopie est un cas un peu particulier, parce que c'est l'un des rares pays caféiers du monde où une partie significative de la production est consommée sur place. C'est-à-dire les Éthiopiens, contrairement aux Kenyans, aux Tanzaniens ou aux Ougandois, boivent café traditionnellement, tout au moins dans les hautes terres éthiopiennes.
Et ces changements-là, ça risque d'entraîner de la spéculation sur les marchés, et d'autant plus d'affaiblir ces liens et cette industrie.
Bien sûr, il y a toujours de la spéculation, il y a toujours des spéculateurs en embuscade, et je vous rappellerai à ce sujet que l'histoire de l'économie caféière est rythmée par des booms et des périodes de faible production liées en grande partie à des événements climatiques. Je pense en particulier aux gelées qui surviennent périodiquement dans les plantations de café arabica des hautes terres du Brésil caféier, c'est-à-dire de l'état de Minas Gerais. Les autres pays se frottaient les mains quand le Brésil, qui est le premier producteur mondial de café, avait ses plantations ravagées par le gel. Ça faisait évidemment monter les prix et le bonheur d'un certain nombre de pays concurrents.
Et si le Brésil est le premier producteur devant le Vietnam, la concurrence vient aussi de Chine. Elle produit désormais autant de café que le Costa Rica et le Kenya réunis, ce qui en fait le 13e producteur mondial. De grandes firmes achètent ses grains, comme Nestlé ou Starbucks. Et même à Pékin, la consommation de café augmente. Il est désormais tendance pour les jeunes de la classe moyenne de boire un café plutôt qu'un thé vert chinois. Santi sana a santi mwana wa mama Ce magazine est en réécoute sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Costeman au micro. Merci pour votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.